Vous écoutez France Culture. L'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Donald Trump et Kim Jong-un déclarent vouloir tourner la page du passé. Le dirigeant nord-coréen s'engage pour une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Et le président américain s'engage, lui, à fournir des garanties de sécurité que réclame le pouvoir nord-coréen. Précision dans un petit instant avec Grégory Phillips. Le président sud-coréen Moon Jong-in salue, lui, l'accord de Singapour comme un événement historique qui met un terme à la guerre froide. On reviendra sur cet événement avec notre invitée Marie-Cécile Nave, chercheure associée à l'IRIS, auteure de Trump, La revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles. Les 629 migrants secourus au large de la Libye par le navire humanitaire l'Aquarius vont finalement pouvoir rejoindre l'Espagne. On fera le point avec Marie-Pierre Vérot. En France, le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti s'élève vigoureusement contre l'idée que l'Aquarius puisse être accueilli en France. Il était question de la Corse puisque les autorités corses de la région avait proposé cet accueil. Il appelle les autorités françaises à une grande fermeté, nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Stéphane Robert. Cette personne blessée dans un accident de RER en Île-de-France, un talus qui s'affaisse à la suite de fortes pluies qui entraînent la sortie de voie d'une rame qui se couche partiellement sur la chaussée, suivie des conséquences des intempéries avec Hugo Chechinski. Et puis dans la dernière partie de la grande table, Olivier Gesbert.
C'est une charge contre l'argent et le marché, moins parce qu'il contribuerait à en lire le monde que par cette réduction de plus en plus prégnante de notre part de sensible. Elle est portée par la philosophe et poète Annie Lebrun, notre invitée. Elle publie aujourd'hui « Ce qui n'a pas de prix » chez Stock. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
Ils se sont serrés la main pour tourner la page du passé et ils ont signé donc un document commun, un texte dans lequel Donald Trump et Kim Jong-un promettent de travailler à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, en échange de quoi Washington participerait aux efforts pour bâtir une situation pacifique, durable et stable dans cette région, Trump s'engageant notamment à fournir les garanties demandées par le pouvoir nord-coréen. On est en ligne avec Grégory Phillips pour essayer de décrypter ces déclarations. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous venez d'assister à la conférence de presse du président américain qui a suivi donc de peu cette rencontre. Sur la Corée d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce document commun et des explications de Trump qui ont suivi ?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un document de deux pages, simplement, hein, une déclaration d'intention, j'ai envie de dire, et qui prévoit ce que vous venez de dire, à savoir une dénucléarisation de la péninsule coréenne, et en échange la sécurité pour la Corée du Nord et la région garantie par les Américains. Mais c'est vraiment une déclaration de principe. Il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas de calendrier. Le texte de deux pages ne dit pas comment est-ce que, par exemple, des observateurs américains ou internationaux pourront vérifier ce démantèlement de l'arsenal nucléaire. Donc on est vraiment sur une première étape qui en appellera d'autres sans aucun doute. Il y aura d'autres rencontres entre les deux hommes, sans doute la prochaine à Washington, mais une relation de confiance a été établie. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Trump très longuement lors de cette conférence de presse. Il dit que cette rencontre a été honnête, directe et productive avec le dirigeant nord-coréen. Il faut quand même se souvenir qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, les deux hommes s'insultaient copieusement et Trump traitait Kim Jong-un de dictateur, et bien là, cette fois-ci, c'est la confiance qui est établie entre les deux hommes et qui amènera d'autres discussions sans aucun doute dans l'avenir.
Voilà, peut-être même des négociations. Donald Trump a répondu à beaucoup d'autres questions dans cette conférence de presse, donc ça a permis de mieux peut-être percevoir sa conception de la négociation diplomatique.
Oui, la diplomatie à la Trump, et pour expliquer ça, le président des États-Unis a utilisé son passé d'homme d'affaires. Il dit « Toute ma vie, j'ai fait des deals. Toute ma vie, j'ai passé des accords. Eh bien, là, c'est ce que je viens de faire avec Kim Jong-un. » Et un journaliste demande à Trump « Mais comment pouvez-vous avoir confiance en cette personne que vous qualifiez il y a encore quelques semaines de dictateur ?» Eh bien, je sens que je peux lui faire confiance. Je sens qu'ils veulent obtenir un deal. C'est le terme employé par le président américain. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de signer ce document. Donc un Trump, certes président des États-Unis, mais qui utilise les ressorts qu'il utilisait déjà quand il écrivait dans les années 80 « The Art of the Deal » et quand il était un businessman aux États-Unis.
Grégory Phillips, merci beaucoup. Donc vous êtes en direct de Singapour. On salue notre invitée Marie-Cécile Nave. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc spécialiste des États-Unis. Reprenons sur cette déclaration commune. Vous êtes d'accord avec ce que disent la plupart des observateurs à l'heure qu'il est, c'est-à-dire que c'est c'est une reprise de dialogue évidemment très importante, que c'est une confiance rétablie, mais que sur le texte lui-même, il n'y a pas grand-chose de nouveau en tirer.
Oui, votre correspondant, Grégory Philips, a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est moins un accord qu'une déclaration d'intention, qui marque une première étape, certes, très importante, symbolique, mais au-delà du symbolique, parce que les relations sont établies. Maintenant, il faut voir dans la durée ce qu'il va se passer, parce que là, on est dans une opération de communication de part et d'autre absolument grandiloquente, avec des clips vidéo, avec Donald Trump qui montre sa gigantesque limousine à Kim. Ce qui me frappe aussi, c'est le contraste avec la manière dont le G7 s'est terminé au Canada. Et tout ceci est dans une continuité, dans une stratégie de communication tout à fait établie, tout à fait pensée, tout à fait continue de la part de Trump, qui semble faire plus confiance à Kim qu'à Trudeau et aux partenaires occidentaux.
Alors, est-ce que vous dites semble? Ça veut dire que c'est vrai ou qu'il fait semblant d'eux ou que c'est un jeu de théâtralisé?
Moi, je ne crois pas que Trump ait confiance en Kim et réciproquement, ce sont deux personnes qui se toisent beaucoup, qui s'observent, mais chacun sait que l'autre peut changer d'avis du jour au lendemain, ne tient jamais ses promesses.
Oui, peut-être qu'ils se ressemblent un peu, peut-être à l'euro.
Alors, ce que je crois et ce que la presse américaine dit, il y avait notamment un article très intéressant du rédacteur en chef de The Atlantic hier qui dit en citant plusieurs officiels de la Maison Blanche, nous sommes la fucking Obama, la fuck Obama doctrine. C'est-à-dire que il y a dans la volonté de Trump à l'international de faire exactement le contraire d'Obama, à la fois dans le style. C'est-à-dire refus des discussions longues, coup d'éclat, communication très viriliste, et puis dans les politiques menées, dans le fait d'aller être défié par le dictateur nord-coréen, il n'a pas peur d'aller au contact des hommes forts. Effectivement, on a l'impression que Trump a plus de respect pour quelqu'un comme Kim Jong-un, qui ne cherche pas à le flatter, qui ne cherche pas à trop adoucir sa position que dans les partenaires occidentaux historiques. C'est vraiment tout à fait frappant de voir en quelques jours comment il a traité Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Angela Merkel en refusant de signer une déclaration commune où on parle de paix, de démocratie, de valeurs humanistes. Et là, il signe en quelques heures un texte qui certes parle de paix et de prospérité, mais c'est quand même un texte signé avec un dictateur qui n'hésite pas à assassiner les membres de son entourage quand ils sont trop gênants.
Marie-Cécile Nave, merci beaucoup. On vous retrouve donc tout à l'heure pour parler de cette nouvelle diplomatie américaine dans la séquence interview. On évoque maintenant le dénouement qui se rapproche pour les 629 migrants toujours ballottés en Méditerranée depuis dimanche. Après le refus de l'Italie de laisser accoster le navire dans ses ports, eh bien, ils seront finalement transbordés vers l'Espagne. 500 d'entre eux, en tout cas, iront sur un bateau des gardes-côtes italiens et un bateau de la marine italienne aussi qui vont accompagner l'Aquarius jusqu'à Valence. Donc en Espagne, ça prendra encore au moins 3 jours de navigation. Marie-Pierre Béraud, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire au moins que cette errance va maintenant prendre fin ?
Oui, sans doute, mais avec encore donc 1500 kilomètres à parcourir, c'est-à-dire, vous le disiez, jusqu'à peut-être 3 ou 4 jours de voyage supplémentaire pour des personnes dans un état d'épuisement physique et psychologique. Rappelons que sur les 629 rescapés, il y a 123 mineurs non accompagnés, 11 autres enfants et 7 femmes enceintes. Les équipes de l'Aquarius font d'ailleurs état de tension à bord. Le navire humanitaire a été ravitaillé. Il attend désormais l'arrivée de ces deux bâtiments italiens qui vont accueillir donc quelques 500 migrants avant de faire route ensemble jusqu'à Valence. Une logistique un peu complexe, Antoine, qui mobilise 3 bâtiments et va empêcher l'Aquarius, l'un des rares bateaux humanitaires à patrouiller au large des côtes libyennes, de poursuivre sa mission de sauvetage pendant cette traversée supplémentaire.
Alors voilà pour l'Aquarius, donc pour lequel une solution semble être trouvée, mais il y a d'autres navires qui pourraient connaître le même sort dans les prochaines semaines. La directrice de l'ONG, en tout cas, qui affrète le bateau, affirme ce matin qu'elle compte poursuivre ses sauvetages au large de la Libye au nom du droit maritime international, du devoir d'assistance à personne en détresse. Le nouveau gouvernement italien n'a montré aucun signe de fléchissement ce matin. Il cherche à faire pression, en fait, sur l'Union européenne pour modifier la politique migratoire européenne. Pression sur qui, précisément? Comment se situe la question au niveau européen?
Sur les États, pression d'évidence, puisque ce sont les seuls maîtres en la matière. Ils sont souverains en matière de politique migratoire. Le seul accord jamais trouvé entre les 28 a été pour renforcer les moyens des gardes-frontières, durcir les conditions d'accueil, entamer une coopération avec la Libye ou signer un texte renvoyant à la Turquie Turquie la responsabilité de gérer l'ensemble des migrants souhaitant gagner l'Europe. Cette fois-ci encore, les propositions que l'on entend, elles sont pour renforcer les moyens de Frontex, qui a pour mission première d'assurer l'imperméabilité des frontières européennes. On est donc sur une seule jambe dans ces politiques migratoires en Europe. Un Conseil européen est prévu les 28 et 29 juin sur cette question. Il pourrait être l'occasion d'avancer. C'est juste une question de volonté politique. Mais les travaux préparatoires n'ont fait qu'acter les désaccords. Par exemple, sur la réforme des accords de Dublin, ces accords qui enjoignent le premier pays européen sur lequel un demandeur d'asile pose le pied à gérer sa demande. Accords dont chacun sait qu'ils ne fonctionnent pas et ont conduit à abandonner la Grèce et l'Italie seules en première ligne. Il avait été envisagé d'assouplir cette règle absurde en cas d'arrivée massive. Mais la France et l'Allemagne notamment s'y refusent désormais. Il y a aussi les pays de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchéquie, etc. qui refusent tout accueil. Et la montée populiste et xénophobe dans plusieurs États européens titanise un peu les autres ou les renforce dans la conviction qu'il faut se montrer ferme face à l'immigration, sauf à risquer de provoquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Le front ouvert en Europe par l'Italie, comme le clame Matteo Salvini, souligne en tout cas les incohérences des États européens, leur absence de solidarité aussi, ce qui précipite la crise et l'aggrave au lieu de la résoudre et ce qui, en un sens, sape également les valeurs fondatrices de l'Union.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup. Justement, en France, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, défendait ce matin l'action de la France, qui, selon lui, agit et n'est pas inerte sur cette question migratoire. Selon lui, tout le monde réagit à chaud, c'est le concours Lépine, et il y a une situation naturellement qui interpelle, mais il faut des réponses rationnelles. Il insiste sur le besoin urgent de mettre de l'efficacité dans cette gestion de la politique migratoire au niveau européen. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, affirme qu'accepter que les bateaux de migrants accostent crée un appel d'air irresponsable et qu'il faut qu'ils retournent d'où ils viennent, dit-elle donc dans un tweet. Et sur un même registre, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, s'élève contre l'idée que l'Aquarius puisse être accueilli, par exemple en Corse. Il appelle les autorités françaises à une très grande fermeté là-dessus. On l'écoute.
C'est un choix politique de la part du gouvernement socialiste. Ça veut dire que l'Espagne veut se substituer à l'Italie. Ça serait une nouvelle route migratoire pour l'Europe qui serait tout aussi dangereuse. Si on empêche les bateaux de partir des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes, c'est là où on sauvera des vies. Regardez ce qui a été fait sur la route des Balkans. La fermeté, l'accord avec la Turquie aussi, a bloqué la route des Balkans. Je le dis depuis plusieurs années, la solution se fera si on arrive à bloquer les côtes libyennes. L'Europe doit dire très clairement, les bateaux retournent vers le point de départ des migrants.
Éric Ciotti sur CNews avec Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
La France ne peut naturellement échapper à cette interpellation collective suscitée par l'errance de l'Aquarius en Méditerranée. Et pour l'exécutif français, c'est une question particulièrement délicate, comme pour les autres d'ailleurs.
Oui, parce que cette question renvoie à ce que décrivait Marie-Pierre Véraud il y a quelques instants, à savoir que la France se trouve dans la situation de ces pays européens qui ne sont pas en première ligne sur cette question de l'afflux des migrants et qui, comme les autres, laissent l'Italie et la Grèce gérer le problème en regardant ailleurs et en se réfugiant derrière cette règle européenne commune qu'est la procédure de Dublin, qui permet de déclarer que c'est en Grèce qu'ils sont arrivés ou bien c'est en Italie qu'ils sont arrivés et donc c'est à la Grèce ou c'est à l'Italie de gérer le problème. D'ailleurs, on voit bien l'embarras du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne ce matin qui essaie d'expliquer que la France n'est pas inerte, qu'elle intervient sur le théâtre libyen pour stabiliser la situation et puis qu'elle s'est engagée à accueillir 10 000 personnes éligibles au droit d'asile dans les 3 ans qui viennent. En gros, ce que dit maladroitement Jean-Baptiste Lemoyne, c'est « Nous, on choisit qui et combien de migrants on accueille, vous les Italiens, débrouillez-vous avec ce qui arrive sur vos côtes. » Même chose quand il est interrogé sur la destination du bateau Aquarius, où doit-il accoster ? Jean-Baptiste Lemoyne se réfugie derrière le droit international. Que dit le droit international, répond-il. Il faut aller vers le port le plus sûr et le plus proche, et ce n'est pas la Corse, donc pas la Corse. C'est soit l'Italie, soit Malte. Et ça permet encore une fois de mettre la poussière sous le tapis en regardant ailleurs. Face à cela, la droite et l'extrême droite, Éric Ciotti, Marine Le Pen, expliquent qu'il faut, selon eux, renvoyer ces migrants d'où ils viennent, c'est-à-dire en Libye ou en Tunisie. Et tout ça nous renvoie à une question extrêmement complexe qui est-ce que c'est chaque pays qui décide tout seul de sa politique ? Autrement dit, est-ce que c'est chacun pour soi, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées ? Ou bien est-ce que le problème mérite qu'il soit traité au niveau européen ? Avec évidemment toutes les difficultés que ça comporte. En fait, ce bateau, l'Aquarius, agit comme un révélateur du clivage politique qui fracture la France, mais aussi l'ensemble des pays et des peuples européens aujourd'hui, partagés entre d'une part des revendications nationalistes et identitaires et d'autre part des aspirations humanistes et à dépasser les frontières. Jusqu'où ? C'est toute la question.
Stéphane Robert, merci. Le conflit à la SNCF, alors que la réforme ferroviaire doit être adoptée jeudi définitivement donc par le Parlement, les syndicats veulent faire de cette 29e journée de grève une journée de la colère cheminote, c'est l'expression utilisée. Ils espèrent obtenir du gouvernement, maintenant qu'ils s'engagent sur une convention collective de haut niveau, disent-ils, dans le rail de façon générale. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, estime que l'on est loin d'une sortie de grève pour cette même raison. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier. Alors,
ça reste assez plus surprenant peut-être, c'est que les syndicats qui sont dits modérés, comme la CFDT ou l'UNSA, ne semblent pas non plus décidés à sortir de ce mouvement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation qui maintenant, quand même, puisque le texte est voté, ça s'apparente à un faux plat?
Comment sortir par le haut alors que la loi doit être encore définitivement votée demain? C'est l'équation à laquelle vont devoir répondre les syndicats, car si le texte a connu des évolutions ces dernières semaines, notamment sur le sac à dos social, puisque les conducteurs qui devront aller dans le privé en cas de la perte d'un appel d'offres pourront revenir pendant 8 ans à la SNCF en récupérant leur statut, l'intersyndicale estime qu'on est encore bien loin du compte, y compris du côté de la CFDT et de l'UNSA réformiste qui avait proposé, rappelons-le, des amendements. Ces derniers, qui veulent sortir du conflit par le haut, ne veulent pas être accusés de traîtrise, alors que les élections professionnelles doivent avoir lieu fin novembre, espèrent encore faire évoluer les choses, avec le début des discussions sur la nouvelle convention collective. Une réunion tripartite est d'ailleurs prévue ce vendredi, avec des questions telles que les salaires, l'avancement de carrière et la formation des cheminots. Du coup, alors qu'il est, la grève est maintenue jusqu'au 28 juin, elle pourrait même se prolonger en l'état actuel des choses, estiment les syndicats les plus réformistes, avec une question: quelles seront les modalités qui seraient mises en œuvre, avec notamment des actions qui pourraient avoir lieu durant l'été.
Hakim Kasmi, merci bien. Les intempéries en France maintenant, avec 7 personnes qui ont été blessées ce matin dans l'accident d'un RER B en Ile-de-France. C'est un talus qui s'est affaissé à la suite de fortes pluies, entraînant donc la sortie de voie d'une rame qui s'est couchée partiellement sur la chaussée. Selon la direction, on ne sait pas encore quand pourra reprendre l'exploitation sur ce tronçon. L'ensemble en fait du réseau RER des Transiliens et du métro a été plus ou moins perturbé en Ile-de-France en raison de ces pluies, tandis que la circulation est rendue très difficile sur certaines routes. Il y a eu plusieurs 500 km de bouchons ce matin, par exemple, aux abords de Paris. Hugo Chesinski, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, alors dans quelle mesure, il pleut, il y a des orages, dans quelle mesure ces perturbations consécutives aux orages sont-elles évitables?
Plus de 22% de la France est urbanisée et près de 78% des Français vivent en ville. Alors pour protéger ces populations, les acteurs de l'aménagement ont tenté d'anticiper les risques d'intempéries. Ces derniers jours, hein, vous l'aurez noté, c'est la pluie qui s'abat sur nos têtes et qui remplit nos caniveaux, allant jusqu'à faire dérailler ce RER ce matin. Et c'est entre autres la bitumisation des sols et la densité du tissu urbain français qui freinent l'absorption des eaux pluviales. Les eaux de pluie ruissellent, entraînant avec elles des hydrocarbures et se déversent dans des cours d'eau qui ensuite débordent. Alors pour freiner les inondations, des normes sont imposées. Des zones dites de pleine terre sont rendues obligatoires pour préserver au maximum les nappes phréatiques, les réservoirs d'eau naturelle. Des toits végétalisés sont encouragés pour temporiser les écoulements dans les canalisations d'assainissement. Et des bassins de rétention d'eau sont installés pour encourager le stockage et la réutilisation des eaux pluviales. Alors même si ces constructions en zone inondable sont entourées de règles très strictes, les villes mettent quand même en place des plans communaux de sauvegarde, des plans d'action qui prévoient la stratégie et l'organisation des secours pendant ces périodes de crise. Des journées de sensibilisation appelées PLOUF sont aussi organisées auprès des enfants dans Paris et les Hauts-de-Seine, car tous les acteurs de l'aménagement le disent, il faut apprendre à vivre avec et pas vivre contre les risques.
Hugo Chesinski, merci beaucoup, spécialiste intempéries à la rédaction de France Culture. Retour à notre invité, séquence interview, Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, auteur de Trump, La revanche de l'homme blanc, cette audition aux éditions textuelles publiées au début de l'année. Je reprends cette phrase de Marie-Cécile Nave dans votre livre. Vous rappelez que dans son premier discours à l'ONU, Trump a menacé de rayer complètement de la carte la Corée du Nord, dirigée par celui qu'il surnomme alors l'homme fusée, Rocket Man. Et puis, il répète aussi que négocier, c'est une perte de temps. En septembre 2017, il écrit dans un tweet, j'ai dit à Rex Tillerson, notre merveilleux secrétaire d'État, je le cite, qu'il perd son temps à négocier avec ce petit Rocketman, et dans un second, il réitère ses menaces voilées et évasives de guerre. Voilà ce que donc disait Trump et que vous rappeliez dans ce livre. Comment expliquez-vous que l'on passe d'une situation aussi agressive à une situation tout d'un coup merveilleuse, d'entente, en tout cas de confiance rétablie avec la Corée du Nord?
Parce qu'on est dans une théâtralisation dans les deux cas, c'est-à-dire est-ce qu'il pensait vraiment rayer Algérie, mais est-ce qu'il pensait vraiment rayer la Corée du Nord de la carte ? Non. Est-ce qu'il fait confiance à Kim Jong-un ? Non plus. Mais il faut pas non plus négliger les effets de la communication. Les mots, les symboles, les images, l'iconographie, tout ça, c'est performatif. Ça a des effets sur le réel. Et Trump, en fait, envoie des messages quand il dit ça. Il envoie un message d'abord, aujourd'hui comme en septembre dernier, à son électorat. Son électorat plutôt défavorisé, qui a peur de la perte de l'influence des États-Unis dans le monde, qui détestait Obama, il lui dit eh bien voilà, maintenant l'Amérique a retrouvé toute sa grandeur, nous ne nous laisserons plus faire par les politiques de compromis, je ne suis pas comme Obama, le président qui s'excuse. Le président qui s'excuse, c'était la manière dont les républicains ont appelé Obama pendant 8 ans. Donc on est dans une stratégie de communication, mais sur cette histoire de Corée du Nord, le grand gagnant, c'est quand même Kim Jong-un, parce que il obtient assez peu de concessions de la part. Il fait peu de concessions par rapport à
s'occuper de la dénucléarisation quand même. Mais enfin, c'est jamais qu'un engagement.
Il obtient beaucoup de choses de Trump. C'est-à-dire qu'en particulier, certes, il dit qu'il va y avoir une dénucléarisation complète, mais elle ne sera pas vérifiable. Bon. C'est pas écrit dans le communiqué, ça ne sera pas irréversible. Et là, on voit que le standard de Donald Trump en matière de dénucléarisation est tout à fait différent de ce qu'il exige de l'Iran. Donc c'est assez incohérent quand même. Pour l'Iran, il a exigé des standards assez hauts qui l'ont conduit à sortir de l'accord. Et pour Kim, c'est une reconnaissance diplomatique mondiale tout à fait importante. Ceci dit, quand même, Trump apparaît ou veut apparaître comme un homme fort qui n'a pas peur d'aller discuter avec quelqu'un que tout le monde déteste ou dont tout le monde a peur. Et donc c'est quand même un message de combativité, de virilisme qu'il envoie à son électorat, mais aussi à ses alliés occidentaux, je le disais tout à l'heure.
Alors, je vous entends plusieurs choses dans ce que vous dites, message, image, performatif, ça veut dire quand même qu'il y a dans cette façon de faire théâtraliser un résultat concret qui est attendu, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du théâtre pour du théâtre, il y a une visée particulière, et puis en même temps, vous nous parlez d'incohérence. Donc, est-ce qu'on peut rétablir peut-être la manière dont lui-même envisage ça? Est-ce que c'est maîtrisé ou est-ce qu'il se fait ça comme s'il était un chef d'entreprise, comme on le dit parfois? Est-ce que vous pouvez nous donner le point de cohérence peut-être de la position de Donald Trump, s'il existe?
Les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'il peut effectivement jouer, comme l'a dit votre correspondant tout à l'heure, la carte du deal-maker, celui qui fait du deal comme en affaires, et qui prétendait d'ailleurs pendant sa campagne agir en diplomatie, en matière de diplomatie, comme il l'a fait quand il était un homme d'affaires, plus ou moins honnête d'ailleurs, qui a fait plusieurs fois banqueroute, par ailleurs. C'est aussi un homme de la télé-réalité, Donald Trump, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui l'a rendu célèbre aux États-Unis. Donc il est très friand et il sait les effets que peuvent avoir les images spectaculaires, un peu manipulées, tournées à son avantage. Mais effectivement, si on se plonge dans le fond du dossier, au-delà des effets d'image, des petites phrases et des « c'est formidable, j'ai confiance », oui, on devait parler des droits de l'homme, on n'en a pas parlé, mais j'ai confiance en Kim Jong-un. Sur les droits de l'homme, bon, en Corée du Nord. Bon. Si on regarde le fond du dossier, c'est une politique étrangère qui est effectivement incohérente d'une région à l'autre, mais qui est cohérente dans la volonté de rupture avec son prédécesseur, dans la volonté d'apparaître comme celui qui décide tout seul, en tout cas, qui donne l'impression de décider tout seul, puisqu'il y a quand même des diplomaties qui discutent entre elles, et qui finalement se moque de la critique. Et même si on lui dit « vous exigez des choses de l'Iran que vous n'exigez pas du tout de la part de la dictature nord-coréenne », il s'en fiche, il continue à avancer. Et finalement, pour l'instant, on voit un Occident qui est complètement désemparé, qui ne réagit pas et qui est lui-même acculé par Trump sur les questions commerciales et les questions de grandes décisions multilatérales sur le climat, sur l'Iran. Pour l'instant, c'est une stratégie qui est de court terme, mais qui porte ses fruits en termes de, en termes de prestige, en termes de prestance, si on ne parle que de ça.
Est-ce qu'on peut pas, oui, effectivement, mais est-ce qu'on va quand même continuer encore une minute. Est-ce que on ne peut pas tout de même y voir un avantage qui serait de dire finalement les Américains cessent avec leur volonté d'être une puissance hégémonique. C'est simplement une puissance qui défend ses intérêts, une grande puissance qui défend ses intérêts comme les autres. Il n'y a plus de destinée manifeste de l'Amérique dans le monde à vouloir faire le bien et donc on est face à des partenaires ou des adversaires. Est-ce que vous diriez que ça peut aussi être une clé d'explication?
Oui, il y a chez Trump une nostalgie d'une époque où les États-Unis dominaient le monde. Alors, ça peut être les années 50, il fait souvent référence aux années 50. Ça peut être aussi tout simplement avant la fin de la guerre froide. Et évidemment, c'est pas comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. On est dans des rapports de puissance d'une région à l'autre qui sont changeants, mais les États-Unis sont une puissance parmi d'autres. Et la montée en flèche de l'Asie sur beaucoup de sujets, la Chine sur l'intelligence artificielle par exemple, laisse à penser que cette hégémonie est en passe de... Enfin, s'effrite et c'est plus les États-Unis contre le reste du monde. Mais le symbole est fort. Et puis, on est vraiment dans du court terme. Il faut voir à long terme c'est même pas un accord, cette déclaration d'intention entre les deux pays va donner. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un processus de dénucléarisation, avec quel calendrier, quelle vérifiabilité, engagement réciproque? C'est là qu'il va
lui donner le prix
regarder.
Nobel peut-être.
Ah oui, ça c'est
de
sûr.
Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, chercheure associée à l'IRIS, auteur de Trump, La revanche de l'homme blanc aux éditions Textuel. Merci d'être venu dans ce studio. J'ai pas le temps de dire Merci. Que la Cour de justice de l'Union européenne admet que le chausseur de luxe français Louboutin peut prétendre à l'exclusivité de ces célèbres semelles rouges. Ça pourrait intéresser notre invité Annie Lebrun,
oui,
puisque c'est le rouge,
le Louboutin, le noir d'Elish Kapoor et le rouge, voilà, de Louboutin.
Alors la météo, le temps reste perturbé, donc sur de nombreuses régions, avec de forts cumuls de pluie dans le sud-ouest, des températures de 17 à 27 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.